L'entraînement pour vivre une vie stratégique vous présente la série intitulée « Surmonter les blessures de la vie et découvrir la joie de vivre une vie stratégique » par Dennis Peacock, traduction Meia Corte. Le huitième principe s'intitule « J'appartiens à la cité de Dieu », c'est-à-dire « Je peux vivre comme un prêtre et comme guerrier ». Je prie Dieu qu'il vous bénisse alors que nous entamons ensemble la dernière leçon de cette série. Nous aborderons plus particulièrement l'aspect suivant. Dieu, notre Père, nous a créés avec un cœur royal. Il désire que nous apprenions à vivre comme roi et comme prêtre. J'aime beaucoup arriver au signet du dimanche parce que c'est le principe qui me plaît le plus. J'aime la complémentarité qu'il y a entre le service du roi ou guerrier est le service du prêtre ou adorateur. Zacharie 6, 12, 13 dit « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Il y a un homme dont le nom est Germe. Sous ses pas germera la vie, et c'est lui qui reconstruira mon temple. Oui, c'est lui qui le reconstruira. Il portera les insignes royaux, et de son trône royal il gouvernera le peuple. Près de lui se trouvera un prêtre. Entre les deux hommes existera une entente parfaite. » 1 Pierre 2, 9 et 10 dit « Nous sommes une race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. » Matthieu 11, 12 dit « Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. » Nous lisons encore au psaume 24, le verset 8. « Qui est l'éternel roi ? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. » Vous trouverez encore d'autres références dans votre canevas. Quelle est la vérité spirituelle que nous voulons pratiquer jusqu'à ce que nous la maîtrisions? Nous voulons pratiquer la bénédiction, jour après jour, en entrant dans l'appel qui était aussi celui de Jésus-Christ. D'une part, il est venu comme lion de la tribu de Juda, comme roi. D'autre part, il est venu comme agneau de Dieu et prêtre de Dieu. À sa suite, nous sommes appelés à être des guerriers et des prêtres. Nous sommes appelés à être des lions et des agneaux. Pourquoi avons-nous besoin de cette vérité dans notre vie? Si nous ne devenons pas des lions dans nos vies, nous ne serons jamais courageux, nous ne serons jamais doués pour la bataille spirituelle, nous ne saurons jamais comment nous comporter lorsque les pressions augmentent, et nous n'apprendrons pas comment servir pratiquement, en nous tenant comme prêtres devant l'Éternel. Comment peut-on pratiquer cette vérité? 1. D'abord en refusant de fuir les problèmes, les conflits que Dieu a placés devant nous, en cherchant vraiment à nous entraîner dans chaque conflit que nous rencontrons jour après jour jusqu'à notre mort. Et deuxièmement, en louant et adorant Dieu toute la journée dans la prière et dans notre intercession et notre dialogue avec lui avec amour. En restant dans le repos, alors que nous sommes conscients qu'il y a tension entre ce que nous savons et pratiquons et ce qui demeure mystère. Dieu nous demande de lui faire confiance. Prenons ensemble le signet pour dimanche. Voici le principe que j'exerce dimanche. J'appartiens à la cité de Dieu. Et mon engagement est le suivant. Père, je m'engage à vivre en tant que guerrier, en tant qu'adorateur, sachant que tu m'apprends à vivre, à gérer, diriger, régner, juger, et que par ma vie, tu déploies ton royaume sur la terre. C'est un engagement très, très particulier. J'ai déjà fait référence à Ésaïe 3, où il nous est parlé de la destruction d'une culture. Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que lorsqu'une culture se désagrège, nous voyons que ce n'est pas l'enseignant, le roi, qui s'en va en premier. Lisons ensemble Ésaïe 3. Le Maître suprême, le Seigneur de l'univers, va priver Jérusalem et le royaume de Juda de toute ressource, en pain et en eau. Il va les priver de tout ce qui leur sert d'appui, troupes d'élite et simples soldats, juges, prophètes, devin et membre du conseil des anciens, officier et dignitaire, conseiller, technicien et expert en sorcellerie. Comme chef, dit le Seigneur, je leur donnerai des gamins qui les gouverneront au gré de leurs caprices. Ce sera la foire d'empoigne. C'est à qui l'emportera sur l'autre, les jeunes brutalisant les vieux et les vauriens les gens de bien. Un homme empoignera son frère, un membre de son propre clan. « Tu as un manteau à te mettre, » dira-t-il, « tu es donc notre chef. Prends le commandement de ces ruines. » Mais ce jour-là, l'autre répondra, « Je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a chez moi ni pain ni manteau. Vous ne ferez pas de moi un chef. » Jérusalem a trébuché, Juda est à terre, en parole et en acte, il s'oppose au Seigneur, il le brave en face. Leur partialité les accuse. Comme les gens de Sodome, ils commettent leurs crimes au grand jour, sans même les cacher. Hélas pour eux, ils préparent leur propre malheur. Vous pouvez le dire, pour les fidèles tout ira bien, ce qu'ils ont fait leur profitera. Mais quel triste sort pour les méchants, tout ira mal pour eux, on les traitera selon ce qu'ils ont fait. Mon peuple, dit le Seigneur, ceux qui dominent sur toi sont des rapaces, ce sont des gens avides, qui exercent le pouvoir. Mon peuple, ceux qui te dirigent ne font que t'égarer, ils te conduisent dans la mauvaise direction. Le Seigneur est prêt pour un procès. Il est en place pour juger son peuple. Il fait passer en justice les conseillers et les chefs de son peuple. C'est vous qui avez ravagé la vigne. Vous avez rempli vos maisons de ce que vous avez pris aux pauvres. De quel droit écrasez-vous mon peuple et faites-vous violence aux pauvres ? Demande le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ésaïe 3, les versets 1 à 15. Ah, ne trouvez-vous pas comme moi que les 12 premiers versets, en tout cas, décrivent vraiment et de manière particulièrement précise l'Europe et le monde occidental ? La première personne qu'on ne trouve plus dans cette culture qui va à la déchéance, c'est le guerrier. Ensuite vient le tour de l'enseignant. Nous avons déjà mentionné le fait que les disciples doivent se nourrir, doivent en quelque sorte manger les problèmes. Alors souvenez-vous du récit dans Nombre 14-9, quand Caleb et Josué sont rentrés du pays promis avec les 10 autres envoyés d'Israël. Il s'agissait là de responsables du peuple, de leaders, pas juste de petits gars ordinaires. Ils ont dit, Dieu n'a pas menti, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà une grappe comme témoin de ce que nous avons vu. Il y a juste un problème. Ce pays est gardé par de grandes murailles, une armée très puissante et des géants, comme c'est le cas aujourd'hui. Quelle est la différence entre la merveilleuse création que nous voyons autour de nous et toutes les armées puissantes qui nous entourent encore aujourd'hui ? Les leaders du corps de Christ, les espions d'aujourd'hui, sont sortis, ont voyagé un peu partout dans le monde, puis ils sont revenus. Et les voilà qui nous apportent des nouvelles. Ils nous disent, c'est un monde extraordinaire, un pays où coule le lait et le miel. Il y a juste un problème, c'est rempli d'adversaires, et quelques-uns d'entre nous sont des géants. Ce n'est pas nous qui allons pouvoir faire une différence. C'est encore exactement comme lorsque les espions sont revenus de leur exploration, lorsqu'ils sont revenus du pays promis. Cependant, Josué et Caleb ont dit autre chose. Ils ont dit, oui, oui, c'est vrai que nous avons vu de très grandes murailles, des géants très puissants. Mais ne comprenez-vous pas que Dieu a enlevé leur protection ? Ils seront notre nourriture. Voici le principe que je vous demande d'exercer. Mangez, digérez vos problèmes. Puis sortez grandi de cette situation. Soit tu fuis tes problèmes au pas de course, soit tu les manges en les affrontant. Voilà ce que Caleb et Josué avaient compris. Il est dit dans la Bible que Caleb avait un autre esprit. Il n'y a pas de liberté sur la terre à moins de faire face aux forteresses mentales et spirituelles. On doit affronter des gens qui ont été blessés et parfois on doit affronter des démons. Dans ce séminaire au sujet des souffrances et des blessures de la vie, nous avons parlé de ces trois domaines. Nous avons parlé des forteresses spirituelles et mentales qui nous emprisonnent. Paul en parle dans 2 Corinthiens 10, au verset 3 à 5. nous devons détruire ces forteresses dans le nom de Jésus. Nous avons parlé de personnes qui ont été blessées, des gens blessés qui nous ont blessés, des gens que nous avons pu blesser. Car lorsque nous sommes blessés, nous en blessons d'autres. Et nous avons parlé de la sagesse démoniaque qui nous dit des mensonges et à laquelle nous pouvons dire « Va-t'en en enfer ». Nous devons le faire. Ceci est un ordre. Ce n'est pas une suggestion que je vous fais. Ceux qui refusent, qui fuient ou qui nient les problèmes ne pourront jamais être libres. Les Indiens d'Amérique avaient une vision particulière de la guerre. Ils priaient ainsi les uns pour les autres. « Que le grand Dieu du ciel te bénisse en t'accordant des ennemis puissants. » Pourquoi ? Parce que des ennemis puissants t'obligent à être ou à devenir puissant. Entre parenthèses, beaucoup d'Indiens d'Amérique étaient des personnes vraiment spirituelles. Je peux vous dire que Dieu vous a béni s'il vous accorde des ennemis puissants. Par conséquent, comment allons-nous agir ? La Bible nous dit aussi que Jésus-Christ est le Seigneur, le Dieu puissant des armées. Nous voyons dans Apocalypse 19 qu'il va revenir sur un cheval blanc, avec une grande armée. Pourquoi Jésus-Christ, entre guillemets, que certains disent pacifiste, reviendrait-il avec une armée ? Si le ciel est un endroit si merveilleux, pourquoi y aurait-il une armée là-bas ? Là, j'ai besoin de comprendre. Il est même dit que Christ viendra en ayant une épée dans sa bouche pour détruire tous ceux qui lui auront résisté, ceux qui ont abusé des autres. Serais-tu plus gentil que Jésus-Christ ? Serais-tu plus civilisé que Dieu ? Y aurait-il une circonstance dans laquelle tu aurais été capable de faire un fouet pour vider les gens du temple ? As-tu déjà rencontré une circonstance dans laquelle tu aurais envoyé une parole de punition à quelqu'un ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il allait faire qui te met tellement mal à l'aise ? Que fais-tu du Dieu qui a envoyé un ours pour tuer 40 enfants parce que ses enfants s'étaient moqués de son prophète ? Que fais-tu de ce Dieu-là ? Est-ce que tu es plus gentil que Jésus ? Nous avons des idées tordues, fausses. Dieu est plus sévère que je ne le suis moi-même. Paul dit « Voyez la bonté et la sévérité de Dieu ». Bien sûr, il est plus facile pour chacun de nous de penser à la bonté de Dieu plutôt qu'à sa sévérité. Mais il est sévère aussi. Il est un guerrier. Il est l'éternel Dieu des armées. Et que fait-on des psaumes ? Comment les entendez-vous ? David était un homme selon le cœur de Dieu. Souvenez-vous de quelques-unes des choses que David dit qu'il voudrait faire à ses ennemis. Oh là 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 ! Que fait-on du Dieu qui a ordonné au peuple d'Israël de tuer tous les hommes, les femmes et les enfants à leur entrée dans le pays promis ? Que crois-tu ? Qui a donné cet ordre à Jésus ? La Bible le dit. C'était Jésus, le Christ, l'éternel Dieu des armées. Jésus a été crucifié parce qu'il a dit « Je suis ». 6 fois dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Je suis ». Et la Bible nous dit aussi que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si la Bible nous dit qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu, qui Moïse a-t-il donc vu s'éloigner ? C'était Dieu, le Fils. Jésus est celui à qui nous devons nous référer. Nous avons parlé précédemment de la grâce médiatrice. Jésus est « Je suis ». Sa perspective est différente de la nôtre et nous devons accepter que lui voit des choses que nous ne voyons pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu n'intervient pas dans les guerres ? Pourquoi ne le fait-il pas ? C'est une grande question. La grande réponse, c'est qu'il pense que c'est à nous d'intervenir. Il attend que nous prenions nos responsabilités. Avez-vous reçu un appel pour agir ainsi ? Pour qui seriez-vous prêt à mourir aujourd'hui ? Nous remercions Dieu d'être mort pour nous, et puis nous jouons aux pacifistes qui disent « Il n'y a pas de cause qui mérite que l'on meure pour elle. » Si cela était vrai, alors Jésus serait lui-même un peu fou. Oui, Dieu serait insensé, parce que lui a pensé que quelqu'un, et même qu'un grand nombre de personnes valaient la peine que l'on meure pour elle. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose pour qui ou pourquoi vous seriez prêt à mourir aujourd'hui ? Où êtes-vous? Es-tu plus gentil, plus accommodant que Jésus? Matthieu 11, 13 dit que le royaume de Dieu est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il s'agit ici de gens qui sont passionnés, qui ont à cœur de s'engager réellement. J'ai entendu il y a quelque temps un cardinal catholique dire quelque chose de sage. Il a dit « Le problème n'est pas que nous ne soyons pas chrétiens, mais le problème c'est que nous ne sommes pas assez chrétiens, c'est-à-dire pas assez comme Christ. » Aucun d'entre nous, moi inclus, n'est particulièrement enthousiaste à l'idée que nous devons vivre une bataille après l'autre. Mais je sais que cela fait partie de la vie. Une partie de ton appel, de mon appel, c'est d'être un guerrier. Si tu refuses d'entrer dans la guerre, tu te condamnes toi-même et ceux que tu aimes avec toi à rester liés. Quand je regarde autour de moi, parfois j'ai vraiment pitié de certains parents qui se font marcher dessus par leurs enfants. Nous voyons cela au supermarché, dans la rue, partout. Des parents qui ont peur de confronter leurs enfants. Des enfants qui dominent d'une certaine manière leurs parents. Savez-vous quel genre d'enfants vous produisez lorsque vous ne les obligez pas à vivre avec une certaine discipline? Voyez-vous, si vous ne choisissez pas de les discipliner, la vie elle-même va s'en charger. Et la vie peut être terriblement cruelle. C'est l'amour qui amène la discipline dans la vie de quelqu'un. Hébreux 12, 6 dit que le Seigneur punit celui qu'il aime. Il corrige, frappe tout homme qu'il reconnaît comme son fils. Il m'est arrivé de rencontrer des chrétiens dans des hôpitaux à la suite d'accidents qu'ils avaient eus. Certains avaient perdu un bras, une jambe ou un être cher. Et j'ai pu constater, même si c'est dur à dire, ils étaient tout à coup enfin éveillés. Alors je pouvais dire, « Oui, toi Seigneur, tu es d'accord de discipliner, de corriger ceux que tu aimes, d'une manière que je n'oserais jamais employer et que tu ne me demandes heureusement pas d'employer. » Il est comme ça parce qu'il est aussi guerrier. Il s'engage à faire tout ce qu'il a choisi depuis toujours de faire et qu'il doit faire. Pour plusieurs d'entre vous, il vous semble qu'il y a dans ce séminaire beaucoup trop de choses à saisir, à vivre à la fois. Souvenez-vous que vous avez là rassemblé l'expérience de 25 années de ma vie et de la vie de personnes qui me sont proches. Même si vous avez l'impression que votre cerveau commence à chauffer, si vous vous sentez submergé dans vos émotions et que vous dites « Seigneur, que vais-je pouvoir faire de tout cela ?» Je vous pose une question. Comment mangez-vous un éléphant ? La réponse est « un morceau à la fois ». Si maintenant, nous avions un rendez-vous de relation d'aide, après que j'ai écouté tout ce que tu as partagé et après que j'ai partagé tout ce que j'ai à partager, je te regarderai et te dirai « que vas-tu en faire ?» Ne m'envoie pas de la fumée, dis-moi la vérité. Que vas-tu faire? La question c'est, que vas-tu faire de tout ce que tu as reçu dès aujourd'hui? Vous savez que vous allez souffrir. Ne savez-vous pas qu'il est impossible de grandir sans souffrance? Vous savez que vous allez devoir vous discipliner. Savez-vous que Dieu a fait de vous un guerrier? Si vos parents ne vous l'ont jamais dit, je vous le dis, Dieu a fait de vous des guerriers, des guerrières. Et si votre pasteur ne vous l'a jamais dit, moi je vous le dis. Et plus important encore, la Bible vous dit que celui que vous suivez est un guerrier et que vous êtes appelés à être des combattants comme lui. Ce soir, maintenant, je suis fatiguée. Cependant, quand je partirai, j'irai courir un moment. Pourquoi ? Parce que j'en ai besoin. Parce que je sens intérieurement que j'ai vraiment besoin d'aller courir un moment. Parce que quand je suis fatiguée, je dois être prêt à appuyer encore un peu sur le champignon. Pourquoi? Parce que lorsque les pensées viennent dans mon cerveau, alors je dois être très disciplinée pour pouvoir agir. Lorsque mes émotions commencent à s'envoler, alors je dois pouvoir être très disciplinée. Quand je dois aller travailler, alors que je suis fatiguée, cela va exiger énormément de discipline. Pour faire ce que j'ai à faire, je dois être très disciplinée. Devant un bon repas dont j'ai besoin, je vais aussi devoir être disciplinée. Quand je suis fatiguée et que je commence à être découragée, là encore je dois être très disciplinée. Parce que je dois me souvenir à ce moment-là que je suis un combattant, un guerrier qui se discipline. Celui que vous suivez, que vous appelez Jésus-Christ, est un guerrier. Quelle discipline nous a-t-il montré à Gethsémané? Infiniment grande, au point de transpirer de l'eau et du sang. Je n'ai jamais expérimenté ce niveau de discipline, ni vu ce niveau de discipline chez quelqu'un d'autre. Quelle discipline lui a-t-il fallu sur la croix? Avec des gens stupides tout autour de lui qui se permettaient de se moquer de lui. Et lorsque des soldats romains se moquaient de lui en le frappant. Jésus est un homme, il a tout pouvoir sur la terre. Quelle discipline a-t-il dû avoir pour ne pas réagir et répondre? Nous savons qu'il a dû se battre. Quand Pilate lui a dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi ?» Entre parenthèses, nous pouvons nous imaginer que Jésus aurait pu lui répondre « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, excepté celui que je te donne. » Il aurait pu se dire aussi « Et à part ça, j'ai une troupe de 20 000 anges qui aimeraient pouvoir entrer dans cette bataille maintenant et qui sont prêts à s'engager pour moi. L'un d'entre eux a, il y a quelques années, alors que je lui avais dit d'entrer dans la bataille, tué 186 000 hommes en une seule nuit. Et il n'a même pas transpiré. » Non, si Jésus ne s'était pas discipliné, pourquoi alors n'aurait-il pas parlé avec Pilate? Il devait sourire intérieurement un petit peu en se disant « Pilate, c'est juste pour ton information, mais la vérité, c'est que ce n'est pas toi qui contrôles la situation. » Quelle discipline Jésus a dû exercer sur lui-même. Ça, c'est la discipline d'un guerrier. Chacun d'entre nous ici a besoin d'être plus discipliné. J'ai besoin d'être encore plus discipliné que je ne le suis aujourd'hui et je dois m'exercer pour cela. Pourquoi? Parce que je veux jouer à un niveau très élevé. Pour jouer à ce niveau-là, cela exige énormément de discipline. Tous ceux qui ont plus de 30 ans dans cette salle peuvent s'identifier à ce que je dis. Peut-être même les plus jeunes. Parfois, lorsque le stress ou les souffrances de la vie sont importants, on a l'impression que l'on ne peut pas porter toutes ces situations en même temps. Vous avez l'impression que vous allez être comme écartelé. Comprenez-vous ce que je dis? Pensez-vous qu'il ne m'arrive jamais de me sentir ainsi? Je peux vous garantir que cela m'arrive aussi. Lorsque ce sentiment-là vient sur moi, je dois rassembler toute ma discipline et m'éveiller rapidement. Je dois me souvenir que je suis un guerrier qui entre dans un combat rapproché. L'ennemi essaye de me détruire à ce moment-là. Si je commence à pleurer sur moi-même, « Oh, ennemi, tu m'as fait très mal. Sniff, sniff. Si je laisse cela m'arriver, alors beaucoup d'autres personnes vont être blessées, elles aussi. Ma femme, mes enfants, un grand nombre de personnes. Oui, à ce moment-là, je dois être et agir en tant que guerrier. Et toi aussi, tu dois agir ainsi lorsque l'ennemi t'accable de la sorte. N'évite pas, ne nie pas, ne fuis pas cette situation, car l'Éternel Dieu des armées est avec toi. C'est à ce moment-là que tu dois faire appel à lui en criant « Éternel, Dieu des armées, viens à mon secours !» Une des plus grandes guerres que j'ai jamais vues est menée par les mamans. Vous avez l'air gentille, douce, mais lorsque vous vous battez pour vos enfants, vous êtes comme des lionnes. Ma femme n'a pas du tout peur de moi lorsqu'il s'agit de me confronter au sujet d'une question importante pour elle. Elle ose vraiment m'affronter. Il y a quelque temps, je regardais un film sur la nature. J'ai vu un grand lion mâle qui s'approchait des lionceaux. La réaction de la femelle, la mère, a été immédiate. Bien qu'étant moins corpulente, elle a tenu tête au lion. Le défi pour chacun de nous, c'est d'avoir cet état d'esprit-là lorsque l'ennemi vient nous attaquer. Un exemple, je donne des cours d'autodéfense aux femmes, à celles qui doivent agir rapidement, par exemple en cas d'atteinte à la pudeur ou de risque de viol. Je dis une chose, si tu ne veux pas être abusé, tu ne dois pas te laisser faire. Qu'est-ce que tu es prête à faire face à une telle situation? Jusqu'à quel point es-tu prête à tout faire pour ne pas être violée? Si tu ne veux pas être violée, il est peu probable que tu le sois. Il y a plusieurs choses que tu peux faire qui vont arrêter immédiatement ton agresseur. Es-tu prête à enfoncer ton pouce dans l'œil de celui qui t'agresse? Si tu dis « Burk », tu risques de laisser passer la chance de te défendre correctement. Qu'est-ce que tu veux réellement? Vois-tu clairement où, quand et comment agir? Ça, c'est la réalité, les amis. Bienvenue dans le monde réel. Si tu es prêt à crever l'œil de celui qui veut abuser de toi, tu ne vas pas être violé. Mais si tu veux gentiment attendre le bon moment pour oser faire ça, tu risques bien d'être violé. Es-tu prêt? Es-tu prête à agir au bon moment? Savez-vous que dans l'Ancien Testament, lorsqu'une femme ne criait pas, n'hurlait pas, n'appelait pas au secours pour attirer l'attention des autres, elle n'était pas considérée comme ayant été violée? Un autre exemple. Alors que j'étais à Hawaï, il y a quelques années, je nageais dans l'océan et je faisais de la plongée. J'avais un pistolet. À un moment donné, j'étais pris dans une vague qui m'éloignait de plus en plus du rivage. Et très bientôt, j'étais complètement paniquée. À ce moment-là, j'ai dû rassembler toute ma discipline pour ne pas mourir. En une fraction de seconde, j'étais sérieux, alors qu'auparavant, je jouais simplement dans l'eau. Pourquoi ne sommes-nous pas sérieux quand il le faut, lorsque nous sommes attaqués spirituellement? Voilà ce que je vous demande de faire. Vous êtes un guerrier, une guerrière. Quand l'ennemi vient vous attaquer, agissez, combattez. La deuxième partie importante de notre identité est celle de prêtre. Nous sommes appelés à être des adorateurs, des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Je ne vais pas développer ce sujet aujourd'hui. Souvenons-nous cependant que l'on soit lévite, menuisier, enseignant, agriculteur, fleuriste, musicien, avocat, dans les affaires. Si c'est ce à quoi Dieu nous a destinés, c'est notre ministère. Il n'y a pas un ministère meilleur qu'un autre. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire à ce sujet, mais j'aimerais finir avec une illustration. Je pense que ça peut vous aider et suffire pour aujourd'hui. Dieu permet que chacun de nous ait à vivre des souffrances, des blessures. Il veut nous aider à les surmonter. Lorsqu'il fait cela, nous recevons l'opportunité de manger de deux arbres différents. Soit nous mangeons du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et exigeons de Dieu à ce moment-là qu'il nous explique pourquoi il permet cela, cette souffrance, ce problème. Et si c'est actuellement votre attitude, si vous êtes en train d'exiger des explications de Dieu, et s'il décide de ne pas vous les donner, vous êtes alors des candidats à l'amertume. Ou soit nous mangeons du fruit de l'arbre de la vie. Avec le fruit de cet arbre, vous adorez, vous servez Dieu en tout temps. Vous n'exigez rien du tout. Je vous laisse un exemple. Il y a quelques années, un de mes amis et son épouse ont été tués dans un accident d'automobile. Je suis allée aux funérailles. Mon ami était noir et son ministère était en pleine croissance dans le monde entier. Nous n'aurions pas dû perdre ses amis. Dieu a repris cet homme et cette femme en un instant. Cet ami avait grandi dans une famille peu habituelle. Il avait trois frères dans le ministère pastoral. Son plus jeune frère a prêché lors de cet ensevelissement. Voici ce qu'il a partagé ce jour-là. Il a dit « Voici ce qui m'est arrivé il y a 3 jours. En pleine nuit, j'ai reçu un coup de fil. Au bout du fil, il y avait un de mes amis qui m'a dit « Ton frère John et sa femme Barbara sont décédés dans un accident d'auto. » Et il a ajouté à ce moment précis, l'Esprit Saint m'a parlé et m'a dit « Paul, tu es à un instant critique de ta vie. Tu dois choisir de manger soit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu vas alors me poser des questions auxquelles je peux choisir de répondre ou non. Soit tu vas manger du fruit de l'arbre de la vie et m'adorer. » Alors j'ai posé l'écouteur au téléphone un moment, et j'ai commencé à louer Dieu. À louer Dieu pour le mystère de Dieu qui permet qu'il y ait de souffrances si terribles dans nos vies. Voilà ce qu'il a dit, cet ami. Moi aussi, j'ai eu la possibilité de prêcher à l'ensevelissement de mon père. C'est une expérience très particulière. J'ai aussi reçu ce genre de téléphone. Lorsque cela arrive, on se lève et on s'approche du téléphone en disant « Ok Seigneur, aide-moi à être et à rester à ton écoute. » Chacun de nous veut comprendre pourquoi Dieu permet ces choses. Dieu, dans sa grâce, nous dit beaucoup de choses. D'autres fois, il garde cela. Et ces choses demeurent un mystère pour nous. Oui, parfois, il choisit de ne pas nous en parler. Je reconnais que je suis toujours dans cette tension entre ce que je sais déjà et ce qui reste encore un mystère. D'un côté, j'adore Dieu pour ce que je sais déjà de lui, et je l'adore aussi pour tout le mystère, tout ce que je ne connais pas encore de lui. Il est plus facile d'adorer Dieu pour ce que je sais déjà. Il est beaucoup plus difficile de l'adorer pour ce que je ne connais pas encore de lui. Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Si vous demandez à Dieu, si vous exigez une réponse, vous n'êtes pas devant le bon arbre. Notre rôle de prêtre est de nous tenir devant Dieu, de l'adorer en toutes circonstances. Un autre exemple, je me souviens d'un couple d'amis qui ont perdu leur fille de 13 ans. Ils ont prié, ils ont fait tout leur possible. Les médecins et les infirmières disaient, cet enfant ne devrait pas mourir. Finalement, ils l'ont laissée s'en aller. Ils ont posé les mains sur elle et ils ont commencé à louer Dieu en disant, « Éternel Dieu, tu nous l'as prêtée, elle t'appartient, nous te bénissons pour qui tu es. » Ils ont choisi d'être et de rester des prêtres dans cette circonstance. J'aime être prêtre dans la présence de l'Éternel Dieu, parce que le prêtre est celui qui est brisé. Il n'exige rien de Dieu. Le prêtre est celui qui adore. Nous sommes prêtres autant que guerriers. Le défi dans notre vie aujourd'hui, c'est être le guerrier au moment où il est nécessaire d'être guerrier et être prêtre au moment où nous devons être prêtres. Nous devons reconnaître et connaître une des astuces de l'ennemi. Il essaye de faire en sorte que nous soyons prêtres au moment où il y a une attaque et que nous soyons guerriers alors que nous devrions servir comme un prêtre. Avez-vous déjà remarqué cela? Que l'Éternel Dieu nous aide à comprendre et à reconnaître ces moments précis dans notre vie. David nous montre, au psaume 51, que le sacrifice qui plaît à Dieu est le sacrifice d'un cœur brisé et humble. J'invite ceux d'entre vous qui ont été blessés. Je vous invite à vous approcher de l'arbre de la vie. Ne vous approchez plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Arrêtez d'exiger des réponses de la part de Dieu. Arrêtez de dire « Mais pourquoi a-t-il permis cela ?» Cette attitude n'amène que de l'amertume dans notre vie. Acceptez de dire « Je ne sais pas quelle était ton intention, mais je sais que tu m'aimes et je t'adore. Et alors que je t'adore, je sais que tu me restaures et me guéris. Je suis de nouveau capable de faire confiance et de faire confiance aux autres. » L'Église va de nouveau devoir générer de vrais adorateurs. Je crois qu'il est évident pour presque tout le monde que nous allons vivre des temps très difficiles. Nous allons avoir besoin de guerriers. Nous allons avoir besoin de vrais adorateurs. Nous devons être les deux. Nous devons apprendre, comme des enfants, à être les deux. C'est ça la nature de la vie. Et en apprenant cela, nous allons grandir. Pour finir, je dirais, qu'allez-vous faire de tout ce que j'ai partagé? N'oubliez pas de mettre votre réveil le soir. Faites-le, fais-le, c'est tout ce qui est à faire. Prépare ton réveil le soir. Et puis, dès ton réveil, donne ta journée à Dieu. Dis, « Ok Seigneur, je fais mon entraînement, éveille-moi. S'il te plaît, montre-moi en quoi je suis concerné aujourd'hui. Je ne veux pas seulement m'exercer jusqu'à ce que je me sois fatigué, mais je veux connaître le but que tu veux atteindre dans ma vie. Quels sont les exercices particuliers que tu veux que je fasse? Je veux savoir ce que tu fais dans et avec mes enfants. Je veux savoir ce que tu fais avec mon époux, mon épouse. Je veux voir ce que tu fais avec les autres, afin que je puisse avoir une parole d'encouragement pour quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Seigneur, rends-moi sensible, éveille-moi. Et quand l'ennemi viendra m'attaquer aujourd'hui, rends-moi agressif comme un lion. Aide-moi à ne plus me laisser faire, à ne plus devenir prisonnier, prisonnière, mais à me battre jusqu'à la mort. Aide-moi à être prêt, à être prête à enfoncer mes deux pouces dans les yeux de mon ennemi, parce que l'ennemi veut me détruire et détruire ceux que j'aime. Il est mon ennemi jusqu'à la mort. Aide-moi, Seigneur, à être prêtre et guerrier. Garde-moi hors de mes anciennes prisons. Aide-moi à demeurer dans cette loi des semailles et des moissons. Aide-moi à être présent dans cette réalité de ta souveraineté. Apprends-moi à diriger. Montre-moi mes coachs, prévus par toi. Chacun de vous a reçu des signets. Pratiquez ce qui est inscrit. L'Esprit Saint va vous rappeler ce qu'il vous a déjà dit et qu'il veut vous aider à pratiquer. Je vous rappelle que ce n'est pas en entendant cet enseignement une fois que vous allez vous souvenir de tout et être capable de pratiquer. Exercez-vous jusqu'à ce que vous puissiez agir de manière adéquate, par habitude, par réflexe, sans même y penser. Vous n'avez pas peur des choses que vous savez faire, parce que vous savez comment pratiquer, comment agir en cette circonstance. Exercez-vous à pratiquer la vérité et vous serez sans crainte. Alors la joie extraordinaire de Dieu sera la vôtre. Et cela va vous permettre de semer une semence de vie qui va vous permettre de recueillir une moisson extraordinaire. Vous savez, je me réjouis de vivre aujourd'hui et dans les années qui viennent parce que je sais ce que je sème aujourd'hui. Un des plus grands exemples dont parle la Bible est celui de la femme de Proverbe 31. Il est dit d'elle qu'elle sourit à l'avenir. Savez-vous pourquoi elle sourit à l'avenir ? Parce qu'elle sait exactement ce qu'elle est en train de semer aujourd'hui. De ce fait, elle s'enthousiasme de voir venir. Puissiez-vous dorénavant surmonter les souffrances, les blessures de la vie et découvrir la joie de vivre une vie stratégique en souriant à l'avenir, parce que Dieu est en train de vous entraîner afin que vous puissiez vivre pleinement. Il vous aide et vous entraîne. Oui, qu'il en soit ainsi. Dimanche, mon principe est « J'appartiens à la cité de Dieu ». Et voici mon engagement. Père, je m'engage à vivre en tant que guerrier et en tant qu'adorateur, sachant que tu m'apprends à vivre, à gérer, régner, juger, diriger, et que par ma vie, tu étends ton royaume sur la terre. Amen.